Mais d'abord, donc, parlons de ces informations. Félix Séguin, qui dévoile donc que la police a accru sa surveillance sur certaines infrastructures comme le pont Jacques-Cartier. Tristan Péloquin qui nous dit que le mouvement anti-vaccin va s'approcher ou même va distribuer des lettres au personnel des sites de vaccination pour les intimider d'une certaine manière. Donc, le mouvement anti-vaccin qui se rendrait sur le lieu des cliniques de vaccination pour intimider le personnel. On va aller rejoindre Marie-Ève Carignan. Elle est professeure au département de communication de l'Université de Sherbrooke et directrice du pôle média dans une chaire, la chaire de l'UNESCO, qui est spécialisée en prévention de la radicalisation. Bonjour, Mme Carignan.
Bonjour, M. Drainville.
Est-ce que vous êtes surprise de voir ces informations à l'effet que le mouvement complotiste pourrait user d'intimidation, même de violence, pour faire avancer son agenda anti-vaccin?
Malheureusement, je suis vraiment pas surprise. Ça va dans le sens de tout ce qu'on collige là, comme analyse, comme information depuis quelques mois maintenant.
Oui, OK. Pouvez-vous préciser un petit peu? Parce que on n'a pas vu, en tout cas à notre connaissance, remarquez que les policiers sont pas obligés de nous le dire tout le temps, mais à ma connaissance, on n'a pas vu encore d'actes violents posé par ce mouvement anti-masque qui devient de plus en plus un mouvement anti-vaccin?
Non, on n'a pas vu d'actes violents, mais en fait, de voir des gens qui vont remettre là des lettres qui attestent, par exemple, d'une mise en accusation citoyenne et du fait que le vaccin serait illégal, tout ça, c'est pas très surprenant pour nous parce qu'on l'a déjà vu à d'autres moments depuis le début de la pandémie où des gens qui étaient dans ces cercles conspirationnistes-là allaient dans des magasins, par exemple, remettre le même genre de lettres de mise en accusation aux responsables de magasins ou d'établissements publics qui faisaient respecter le port du masque en disant qu'ils brimaient la liberté des citoyens. Donc, c'est un peu le prolongement de ce qu'on a déjà vu. La même chose, on a déjà vu, par exemple, dans ces groupes-là, des gens bloquer le pont-tunnel Louis-Polyte Lafontaine qui disaient qu'ils allaient peut-être s'en prendre à d'autres infrastructures. Alors, c'est pas une surprise.
Attendez, quand est-ce qu'on a vu ça? Excusez-moi, là, quand est-ce qu'on a vu ça? Qu'ils ont bloqué le pont-tunnel Louis-Polyte Lafontaine?
Oui, il y a quelques semaines, une frange du mouvement complotiste avait bloqué pendant quelques minutes le pont Louis-Polyte Lafontaine.
Ah oui.
Oui.
Ça n'a pas duré longtemps, d'après ce qu'on me glisse à l'oreille, là.
Non, ça n'a pas duré longtemps, quelques minutes.
Mais quand même, il y a comme
donc,
un petit avertissement.
Pour ça que je dis que c'est pas si surprenant. Bon. On avait déjà vu des manifestations de ça avant, oui.
Mais est-ce qu'ils sont sérieux? Ou est-ce que c'est juste pour la plupart des gens qui sont forts en gueule, mais qui ne passeront pas à l'acte, qui beuglent beaucoup, qui jappent beaucoup, mais qui sont plutôt peureux, puis un peu couillons?
Mais il y a de tout, hein, de tous les types de personnes qui adhèrent à cette vision complotiste des choses-là. Ce qui est assez particulier, c'est qu'en général, on peut dire que les gens qui partagent des informations complotistes, ils croient vraiment, donc ils sont vraiment engagés puis investis là, dans ces croyances-là. Il suffit d'une personne, par contre, qui vraiment là, atteint un niveau de croyance qui la porte à un acte violent pour que ça puisse dégénérer. C'est ça qui est préoccupant. Pas besoin d'avoir un grand groupe organisé. Il suffit d'une ou deux personnes qui dérapent pour qu'on puisse assister à des événements là, qui sont vraiment malheureux.
Et dans certains cas, ce qu'on remarque, c'est que dans ce mouvement-là, il y en a qui ont la foi, puis c'est une foi quasi religieuse. Là. Ils sont tellement convaincus d'avoir raison qu'ils sont dans leur tête. Et évidemment, ben, dans certains cas, on l'a vu par le passé, on l'a vu dans notre histoire, il y a des personnes qui sont tellement, tellement convaincues d'avoir raison envers et contre tous, qui sont prêts à faire n'importe quoi pour faire avancer leur cause.
Tout à fait. C'est vraiment la comparaison que le mouvement sectaire est soutenu par beaucoup de chercheurs parce que ces gens-là commencent à voir quelques informations complotistes sur les réseaux sociaux, par exemple, et là, sont aspirés un peu comme une spirale où on voit d'autres informations et on tombe dans toutes sortes d'idées complotistes qui occupent des heures et des heures du temps de certains individus qui sont plus radicaux dans ces croyances complotistes-là. Et ils s'isolent sur les médias sociaux en partageant l'information avec ceux qui croient comme eux. Donc, ils s'éloignent souvent de leur famille, de leurs amis, de tous ceux qui pensent pas comme eux. Et c'est là qu'on fait un rapprochement avec le mouvement sectaire, cette espèce d'isolement-là, puis de vraiment se sentir entrer juste sur les croyances complotistes.
Là, ce que je vois aussi dans un article de l'agence Science Presse, c'est qu'il y a un rapprochement entre les conspirationnistes anti-masques, anti-vaccins et l'extrême droite. Avez-vous remarqué ça, vous?
Oui, tout à fait. Bien, j'ai participé participé à cet entretien avec l'agence Science Presse, en effet, et c'est vraiment nos données. Donc, depuis janvier dernier, on travaille à colliger de l'information autant auprès de la population que sur les réseaux sociaux, là, dans le cadre de différents projets de recherche sur la COVID. Et ce que nos analyses, notamment sur les réseaux sociaux, nous ont démontré, c'est vraiment que les leaders de certains mouvements, donc plus associés à la médecine alternative, médecine naturelle, tout ça, sont mis vraiment là en dialogue avec des leaders qui étaient pour nous vraiment plus liés à l'extrême droite, mais là, ils se sont rapprochés avec la pandémie. C'est comme si la pandémie a été un point où, ensemble, on a trouvé un accord anti-gouvernement, anti-mesures sanitaires, libertariens. Et là, ces gens-là qui, ont au départ, ont des croyances qui semblent vraiment opposées, mais se sont mis vraiment à référer du contenu à l'autre, à référer à l'autre, et c'est comme si, un, ça donnait plus de visibilité au mouvement complotiste, mais aussi ça mélange donc toutes sortes d'idéologies anti-vaccins avec extrême droite, ce qui peut être préoccupant.
Vous me dites ce qui les unit, c'est la défense de la liberté individuelle, donc l'extrême droite d'un côté, les conspirationnistes anti-masques, anti-vaccins de l'autre. Il y a aussi une méfiance, sinon un rejet de l'autorité de l'État, de l'autorité des gouvernements, enfin une méfiance de ce qu'ils appellent les élites du système.
Tout à fait. On le voit très fortement dans nos analyses. Entre autres, on a fait des sondages où on posait des questions, des énoncés conspirationnistes aux citoyens. Et ce qu'on voyait, c'est que ceux qui étaient en accord avec ces énoncés-là, mais c'est aussi ceux qui souvent manifestaient le plus de méfiance envers les autorités politiques, les autorités de santé, les autorités médiatiques aussi. Donc, le lien entre la confiance puis l'adhésion aux thèses complotistes, c'est vraiment très, très fort.
Là, il y a un nouveau terme que j'ai découvert dans cet article donc de l'agence de Science Presse, dis-je. La conspiritualité, donc qui est un mot formé de complotisme d'un côté et de spiritualité de l'autre.
Oui, c'est l'idée derrière ça qui a été avancée par un collègue, c'est qu'on voit de plus en plus de gens qui prônent justement des médecines alternatives ou le bien-être, la spiritualité, yoga, méditation, qui vont mélanger ce discours-là avec un discours complotiste qui part justement peut-être de cette méfiance des mesures sanitaires, de cette tendance à vouloir prôner la liberté, mais là qui dévie.
Mais c'est quoi le rapport, excusez-moi, là, c'est quoi le rapport entre le yoga puis le vaccin?
Les gens qui souvent croient à des médecines alternatives, on voit parfois un lien là, dans des études avec le fait qu'on va se méfier notamment du vaccin ou de certaines formes de médecine. Mais ces gens-là qui ont un grand public sur les plateformes de réseaux sociaux, rejoignent beaucoup de gens. Alors, des théories qui seraient peut-être plus marginales dans des cercles plus fermés de conspirationnistes par des influenceurs, notamment en santé, là, vont rejoindre le grand public. Et c'est là que ça fait mal, c'est que ça sort de des cercles fermés pour aller rejoindre le grand public et aller chercher des nouveaux adeptes, des nouveaux gens qui vont adhérer à cette vision des choses-là.
C'est parce que là, ça commence à faire pas mal de monde, là, Mme Carignan. Là. Si tu prends, ils sont à peu près 20% les anti-masques, on le dit depuis le début. Mm-hmm. Tu rajoutes à ça ceux qui sont de la mouvance droite radicale, sinon extrême droite. Bon, ça, ils sont pas très nombreux, mais ils peuvent être très présents. Tu rajoutes à ça les adeptes de la de tout ce qui est yoga, pro-santé, les trucs un peu plus ésotériques. Là. Puis je suis pas en train de dire que tous ceux qui font du yoga là sont dans la conspiration. S'il vous plaît, commencez pas à m'écrire et me dire ça. Là. Mais ce que vous avez remarqué, vous, dans vos études, c'est qu'il y en a de cette mouvance qui appartiennent maintenant, qui sont allés rejoindre le grand groupe, là, le grand camp des conspirationnistes. Je veux dire, ça commence à quoi? On est rendu à quoi? 25% de la population, là?
Et vous avez raison, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Les gens qui adhèrent à des visions complotistes n'ont pas tous le même profil et on faut vraiment pas généraliser. Mais oui, nos derniers chiffres là, nous donnaient au Canada un 23-24% des gens qui adhéraient aux énoncés conspirationnistes qu'on leur avait soumis, donc une personne sur quatre environ. Et ce qui est encore plus préoccupant, mais on voit le lien entre ces gens-là, entre les différents énoncés. C'est-à-dire que souvent, s'ils croient à un énoncé conspirationniste, ils croient aussi aux autres. Donc, on voit vraiment une vision construite des choses.
Ben, c'est pas rassurant, Mme Carignan. C'est pas rassurant. Je vais te dire, là, quand tu regardes tout ça, quand tu additionnes tout ça, puis quand c'est devenu suffisamment sérieux pour que les policiers, comme on le voit dans le papier de Tristan Péloquin, les policiers envoient des lettres aux CIUS, aux employés des CIUS pour les prévenir qu'ils pourraient avoir la visite de militants anti-vaccins dans les cliniques ou les sites de vaccination. Puis on leur dit, ne leur parlez pas trop, ne les provoquez pas, ils font des vidéos, etc.
Oui, c'est préoccupant. On ne veut pas qu'il y ait de dérapage. Individuellement, parler à ces gens-là pour essayer de montrer qu'on est capable d'avoir une base de dialogue puis que c'est légitime de poser des questions, par exemple, sur les mesures sanitaires. Individuellement, on peut engager un dialogue, mais là, contre l'ensemble de membres d'un mouvement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est certain qu'il y a une préoccupation des forces de l'ordre qui était bien montrée aussi, notamment là, dans le Journal de Montréal aujourd'hui, parce que on a vu avec la purge des médias sociaux qu'il y a eu dernièrement, là, que beaucoup de leaders de ces mouvements-là sont fait exclure de Google, Facebook, YouTube, etc. Mais le problème, c'est que pour les forces de l'ordre, c'est là qu'on pouvait facilement les suivre puis regarder leurs propos. Quand ils vont dans des médias sociaux alternatifs, des réseaux sociaux alternatifs, bien, ils sont beaucoup plus difficiles à suivre. Et pour la sécurité, ça peut être un casse-tête.
Marie-Ève Carignan, qui est avec la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent à l'Université de Sherbrooke, où vous êtes professeure en communication. Merci beaucoup, Mme Carignan.
Avec plaisir.
Hey, Luc.
Oui, monsieur.
Oh, boy, j'aime pas ça, moi, là.
J'aime vraiment pas ça, puis je me demande ce que les... Bon, je suis convaincu qu'ils font un bon travail de renseignement, les policiers, d'après ce qu'on peut voir dans les articles publiés ce matin. Mais il n'y a pas juste de la prévention, là. À un moment donné, ces gens-là, on les a vus à l'œuvre à Washington. Faut pas oublier ça, là. Tout ça, ça se tient, hein? Les gens regardent ça à la télé, les espèces de têtes brûlées, puis qui sont dans ces anti-vaccins, puis ces conneries incroyables. Ils regardent ça à Washington, puis ils disent, ah, nous autres, on n'est pas juste nous autres, là. Il y a eux autres aussi, puis ils ont réussi à brasser le gouvernement, puis... Alors, ça devient
ça peut
très
créer,
dangereux.
Ça peut créer un effet d'entraînement sur des gens chez nous, ce qu'ils voient à la télé ou à Washington, c'est ça que tu dis?
Bien, carrément, oui. Carrément. Puis nos écrans sont inondés de ce qui se passe à Washington. Alors, je ne sais pas s'ils ne devraient pas procéder à des arrestations. Est-ce que, tu sais, quelqu'un qui se promène sur les sites, les médias sociaux, puis qui parle de je sais pas quoi, puis de violence, puis pourquoi ils arrêtent pas? Tu sais, c'est à un moment donné. Ça suffit.
Mais tes arrêtes, c'est ça. Moi, je suis certain qu'il doit y avoir des juristes qui nous écoutent, même des policiers qui se disent ouais, mais tu veux que je les arrête en vertu de quel article de loi, là? Tu sais, menace potentielle à l'ordre public, là, tu sais.
Oui, mais littérature haineuse, ça fait partie de nos traditions juridiques, que je sache. Je veux dire, quand tu écris des affaires de ce genre-là, c'est de la littérature haineuse et dangereuse. C'est une incitation à la violence. Je ne suis pas un juriste, j'en conviens. Mais je ne veux plus qu'on fasse preuve de tolérance à propos de cette bande d'idiots. Comprends-tu? Ils sont dangereux, ils sont extrêmement dangereux. Il n'y a aucun moyen de raisonner avec eux. La seule affaire qu'on peut faire, c'est les surveiller puis les arrêter aussi souvent qu'on le peut.
D'accord, Luc, on se reparle un petit peu plus tard.
À tout de suite.
À tantôt. OK, on s'en va à la pause. Au retour, je vais vous parler de cette situation. Donc, quand on dit là que c'est, on est vraiment là, ça craque aux coutures là dans le système de santé là, puis que les soins intensifs sont étirés au maximum. Ben là, c'est rendu qu'ils sont obligés d'aller chercher des infirmières d'un CLSC pour les amener aux soins intensifs. Ça pose toutes sortes de questions. Après la pause.